André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
T'es le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer du nord. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur.
Aujourd'hui, c'est la sixième émission de l'œuvre de Maurice Leblanc dans la série des Arsène Lupin. Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, le roman La Cagliostro se venge avec notre ami comédien Philippe Merlane. Et on regrette aujourd'hui l'absence de Françoise Bénard qui n'a pas pu se joindre à nous, mais on la salue et on lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, La Cagliostro se venge semble être la suite directe de La Comtesse de Cagliostro que nous avons présentée dans notre dernière émission et qui racontait comment Raoul d'Andrézy, alors âgé de 20 ans, devient Arsène Lupin à la fin du roman. Il épouse la femme qu'il aime. Et bien qu'il se livre en cachette à quelques larcins pour faire vivre sa famille, un fils né de cette union, mais la mère meurt en couche. Quand son fils est enlevé, Raoul sait que c'est la Cagliostro qui a commis le forfait par vengeance. Puisqu'il ne lui reste plus d'attache, Raoul décide de consacrer sa vie au cambriolage et reprendra son nom paternel, Lupin. Nous sommes dans les années 1920, et 26 ans après l'épilogue de La Comtesse de Cagliostro. Et d'après des chronologies trouvées sur Internet et certains indices livrés par l'auteur, l'action semble se passer après les Dents du Tigre, où Lupin se mariait, enfin, avec une femme qu'il aimait sincèrement et promettait bien de prendre une retraite bien méritée, tout en débrouillant ici ou là certains mystères. On retrouve donc là Raoul de Limésie, Arsène Lupin, en train de suivre un homme qui semble frauder le fisc en planquant une partie de ses revenus. Et comme voler un voleur n'est pas pour Raoul un crime, il décide d'acheter une maison mise en vente par son client. Il récupérera son investissement en volant son voisin. Il devient vite un familier de la maison, mais un crime est commis. Une des deux nièces de son client, Elisabeth, est tuée la veille de son mariage. Voici un premier extrait sur le meurtre d'Elisabeth attaquée au bord de l'écran, avec Philippe.
On a crié, vous avez entendu, Jérôme ? Ils écoutèrent, sûrement Roland avait fait erreur. Elle reprit à pleine main ses accords de victoire et de joie. Puis, subitement, elle se dressa, on avait crié, elle en était certaine. Elisabeth, balbutia-t-elle, en s'élançant vers la fenêtre. Elle proféra la voix étranglée, « Au secours !» Jérôme était déjà près d'elle. Se penchant, il vit au ras de la berge, à l'endroit des marches, un homme qui semblait tenir Élisabeth à la gorge. Celle-ci gisait, les jambes dans l'eau. À son tour, Jérôme hurla de terreur et voulut sauter pour rejoindre Rolande qui courait sur la pelouse. Là-bas, l'homme s'était retourné vers eux. Tout de suite, il lâcha sa victime, ramassa quelque chose et s'enfuit par le jardin de l'orangerie. Alors Jérôme changea d'idée. Il passa dans la pièce voisine, il décrocha une carabine et s'arrêta sur le perron qui dominait les jardins. L'homme se sauvait. Il se trouvait devant la maison et voulait manifestement atteindre le potager de l'orangerie. Jérôme épaula et visa. Une détonation, l'homme piqua une tête et déboula dans un massif de fleurs où, après quelques soubresauts, il demeura inerte. Jérôme s'élança. « Vivante ! » s'écria-t-il en arrivant auprès de Rolande qui, à genoux, étreignait sa sœur. « Le cœur ne bat plus, » dit Roland dans un sanglot. « Mais non, voyons, c'est impossible. On peut la ranimer, » fit Jérôme avec épouvante. Il se jeta sur le corps immobile, mais tout de suite, avant même de constater s'il y avait un corps, il bégaya, les yeux hagards. « Oh, ce collier, il n'y est plus !» L'homme la serrait à la gorge pour lui arracher ses perles. Oh, l'horreur, elle est morte. Il se mit à courir comme un fou, accompagné du vieux domestique Édouard, tandis que Roland et la gouvernante, Amélie, restaient auprès de la victime. Il trouva l'homme à plat ventre dans le massif de fleurs. La balle, le frappant entre les omoplates, avait dû atteindre le cœur. Alors, avec l'aide d'Édouard, il le retourna. C'était un individu de 50 à 55 ans, vêtu pauvrement, coiffé d'une casquette sale, avec une figure blême, dans une couronne ébouriffée de barbe grise. Jérôme le fouilla, un portefeuille crasseux contenait quelques papiers, parmi lesquels deux cartons, avec ce nom écrit à la main, Barthélemy. Dans une des poches du veston, le domestique découvrit le collier à un rang de grosses perles fines. Les cris et la détonation avaient été entendus dans les environs immédiats des deux villas. On téléphona au commissariat de Chatou et à la gendarmerie. Un service d'ordre fut organisé, on écarta les intrus, on procéda aux premières constatations. Jérôme Elmas s'était écroulé près de sa fiancée morte et se bouchait les yeux de ses poings crispés. Quand on la transporta chez elle, il ne remua pas. Et lorsqu'on le fit chercher de la part de Roland, qui, pleine d'une énergie farouche, surmonta sa douleur, habillait Elisabeth de sa robe de mariée, il ne voulut pas venir. Félicien Charles, qui était revenu au clématite, dès que le drame lui fut annoncé, qui n'avait pas été reçu par Roland, tenta une diversion en mêlant Jérôme à l'enquête. Il le conduisit devant le cadavre de l'assassin, qu'on avait étendu sur une civière. Il lui demanda s'il n'avait jamais vu cet homme. Il l'interrogea sur les circonstances du drame. Rien ne put l'intéresser ni le tirer de sa torpeur. À la fin, les policiers le harcelant de questions, il se réfugia dans le studio où, pour la dernière fois, il avait vu Elisabeth et n'en sortit plus.
L'enquête révèle des éléments troublants, notamment la présence d'un second blessé, Simon Lorient, et des soupçons autour de Félicien Charles. Les détails de l'attaque et les motivations des personnages deviennent flous. Raoul Daverny propose une théorie selon laquelle il pourrait y avoir deux affaires distinctes liées par un point de contact. Il met en lumière des détails sur les marches de l'étang et la possibilité d'un complice. Philippe Gavrel, l'oncle des sœurs, révèle qu'il a été victime d'un vol, ajoutant une couche de mystère à l'affaire. Les documents précieux qu'il a perdus pourraient être liés au meurtre d'Elisabeth. Mais l'enquête se complique avec des accusations contre Félicien Charles, tandis que Raoul Daverny continue de chercher des réponses. La tension entre les personnages s'intensifie alors que chacun tente de prouver son innocence. Voici un deuxième extrait où Raoul Daverny, Lupin, est confronté à la colère de Faustine Cortina qui accuse Arsène Lupin d'être responsable de la disparition de son amant Simon Lorient. Leur échange révèle des tensions émotionnelles et des accusations mutuelles. Philippe.
Au premier choc, la colère de la jeune femme se déchaîna, une colère pleine de sanglots et d'effroi. Voilà 3 jours que celui que j'aime a disparu, 3 jours que je le cherche vainement et que je cours de tous les côtés comme une folle. Et ce matin, brusquement, dans ce journal, car je les lis tous avec l'épouvante d'apprendre qu'il a été victime d'un accident, dans ce journal, j'ai lu son nom. Il était blessé, presque mourant. Il est peut-être mort à l'heure actuelle. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici au lieu d'aller à la clinique? Avant d'y aller? Mais j'ai voulu vous voir. Pourquoi? Et ne répondit pas à la question. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes l'auteur de tout cela. Oui, vous. Toute l'affaire est votre œuvre. Il suffit de lire ce journal. Félicien Charles, hein? Un comparse. Le chef, c'est vous. Celui qui a machiné toute l'aventure, c'est vous. Dans l'intuition, la certitude. Dès que j'ai lu le journal, je me suis dit, c'est lui. Qui, moi? Vous ne me connaissez pas. Si, je vous connais. Vous me connaissez, moi? Vous me connaissez, moi? Raoul Daverny? Non, vous, Arsène Lupin. Raoul fut interloqué. Comment cette femme pouvait-elle savoir? Il lui saisit la main brutalement. Que dites-vous? Arsène Lupin? Oh, ne mentez pas, hein, à quoi bon? Il y a longtemps que je le sais. Simon m'a souvent parlé de vous et de ce nom Daverny sous lequel vous vous cachez. Je suis même venu ici un soir de la semaine dernière pendant votre absence et sans que personne le sache. Il voulait que je voie la maison d'Arsène Lupin. Ah, ce que je l'ai averti pourtant. N'essaie pas de le connaître, ça te porterait malheur. Qu'est-ce que tu attends de cet aventurier? Elle tendait son poing, crispée vers Raoul. Elle l'injuriait du regard et de sa voix toute frémissante de mépris. Raoul écoutait, impassible. D'où provenait donc cette étrange histoire? Il avait été voir Simon Lorient à la clinique. Il ne le connaissait pas. Dans quelle intention Simon Lorient voulait-il entrer en relation avec lui? Comment avait-il pu deviner que Raoul d'Averny n'était autre qu'Arsène Lupin? Par suite de quel hasard était-il en possession d'un tel secret? Raoul eut l'impression que la jeune femme ne pourrait le renseigner à ce propos, ou du moins qu'elle ne le voulait pas. Elle avait un front obstiné, des yeux inflexibles, droite ardente dans son immobilité, mais malgré tout, elle ne perdait rien de son charme. Elle savait, par instinct ou par habitude, se servir de sa beauté et la mettre en relief. L'admiration visible de Raoul la fit rougir, elle se courba dans un fauteuil et soudain, défaillante, elle pleurait. « Vous ne sauriez croire ce qu'il est pour moi, c'est toute ma vie. S'il meurt, je mourrai. Je n'ai jamais aimé d'autre homme. J'étais à genoux devant lui, je me serais tué pour lui épargner une peine. Et il m'aimait si profondément. Aussitôt riche, on devait s'épouser et partir, oui, partir. Mais qui vous empêche? Et s'il meurt? Elle se jeta sur Raoul. C'est vous qui l'aurez tué, je ne sais comment, mais c'est vous. Et je me vengerai comme on sait se venger dans mon pays en Corse. Il ne faut pas qu'il meure avant d'être sûr qu'il a été vengé. Le coup qu'il a reçu vient d'Arsène Lupin, et votre nom, je le crierai partout. Oui, je vous dénonce à la police, et sans plus tarder, il faut qu'on sache qui vous êtes. Arsène Lupin, le malfaiteur, le cambrioleur, Arsène Lupin. » Elle ouvrit la porte et tenta de se sauver tout en vociférant comme une démente. Il lui mit la main sur la bouche et de force la fit rentrer dans la pièce. Il y eut une lutte acharnée. Mais quand il la sentit contre lui toute palpitante, vaincue, il eut un moment de vertige et fit un effort comme pour l'embrasser. Alors, elle éclata de rire dans un accès de rage qui la bouleversait. « Ah, vous aussi, hein. Vous comme les autres. Une femme hein, se débarrasse d'elle en l'empoignant comme une fille. Parbleu, un Lupin, ça se croit tout permis. » Toutes les femmes lui appartiennent. Ah, cabotin. Si vous m'aviez seulement effleuré la bouche, je vous tuais comme un chien. Raoul était exaspéré. Assez de bêtises, mais vous n'êtes pas venu pour me dénoncer, ni me tuer, n'est-ce pas? Parlez, sacrebleu, que voulez-vous? Mais parlez donc! Il lui reprit les deux bras et, la maintenant face à lui, il articula d'une voix toute frémissante. Je ne suis pour rien dans cette affaire, ce n'est pas moi qui ai frappé Simon Lorient. Je vous jure que ce n'est pas moi. Mais alors parlez! Que voulez-vous?
Leblanc commence son roman par une préface d'Arsène Lupin lui-même qui, s'il ne remet pas en cause les faits de son biographe, a écrit « Il aimerait quand même informer le lecteur que quelquefois son biographe le met trop en avant et il désapprouve cette mise en avant qui le fait passer pour un don Juan. » Avançons dans cette histoire avec un troisième extrait, la rencontre de Thomas Lebouc et un mystérieux gentleman. C'est Philippe.
Réveillé, ils s'entretinrent avec moins d'incohérence et Thomas Lebouc, plus lucide, entoura de son bras le cou de son compagnon et se fit affectueux. « Ça va tout à fait bien, hein, camarade? Aussi tu bois trop et ça t'amène à lâcher des histoires, à te faire fiche en prison. »« Moi, en prison ?» protesta difficilement le gentleman. « Ben oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire du Vésiné dont tu rabâchais dans le caboulot ?»« Le Vésiné ? Ben évidemment, le Vésiné. » C'est une affaire de police. Les journaux bavardent là-dessus. Tu as chapardé des biens. T'en as du culot, hein. Tu ne les as pas chapardés? Non. On me les a donnés. Qui? Un type. Un type du Vésiné? Non. Enfin quoi, tu as été au Vésiné? Oui. Mais quand? Avant la guerre. Bah, tu nous embêtes. Ce n'est pas des billets d'avant-guerre que tu as. Non. Leur fallut 20 minutes de palabres et de discussions avant que le gentleman finit par déclarer. Tu as raison, Lebouc, ouais. Ça doit dater de plus tôt que ça. 10 ou 12 jours, peut-être? Peut-être bien, oui. Et ton type s'appelait? Ah, ça. Je ne peux pas te le dire, hein, Lebouc. Tu ne peux pas? Non. Le type m'a défendu. Mais pourquoi te les a-t-il donnés? Comme récompense. Comme récompense d'une chose que tu avais faite? Non, d'une chose qu'il fallait faire. Mais laquelle? Oh, je ne sais plus. Nouvelle discussion, là, interminable. Ils descendirent sur la chaussée inférieure qui borde la Seine. Le jeune gentleman s'effondra entre des tas de sable. Thomas alla se laver le visage et trempa dans l'eau son mouchoir dont il mouilla la figure du gentleman. Que je t'explique. On a volé dans une villa au Vésiné un petit sac de toile grise qui avait une grosse valeur. Ce sac a été perdu et on t'a donné 5 billets pour le retrouver? Non. Mais si, un grand garçon avec une cravate à pois. C'est pas ça, il n'y avait pas de sac et pas de cravate à pois. Tu mens. Alors pourquoi t'as donné 500 francs? On ne m'a pas donné 500 francs. Quoi alors? 5 billets de 1000. 5 000? 5 000 francs. Thomas Lebouc était dans un état d'excitation extraordinaire. 5 000 francs. Son ivresse augmentée, ce fut lui qui se mit à pleurer et à faire des confidences. Écoute, mon vieux, ils ont agi avec moi comme des bandits. Oui, le vieux Barthélémy et Simon, voilà. Ils me tenaient toujours en dehors de leur coup. Alors, ils m'ont dit seulement, loue une camionnette et tu nous attendras près du pont de Chatou. Quand le coup sera fait, on te rejoindra. Et puis, ils se sont fait tuer. Mais tout ça, je m'en fiche. N'en parle plus. Il y a autre chose. Une autre chose? Laquelle? Murmura-t-il. De quelle autre chose parles-tu, le bouc? Ben, d'un coup qu'ils ont combiné, bégaya celui-ci. Un coup formidable. J'en sais beaucoup là-dessus, mais pas tout. Je sais contre qui ils l'ont combiné, mais ils ne m'ont pas dit le nom que porte le type à présent et où il habite. Sans quoi, c'est des centaines de mille qu'on gagnerait. Des centaines de mille, hein, si je le savais. Oui, je chuchota le gentleman, si on le savait, oui. Moi, je t'aiderais bien. Tu m'aiderais. Tu m'aiderais, n'est-ce pas? Pleurnichait le bouc. Parbleu. Ben oui, je peux t'aider. Il y a des maisons pour débrouiller les affaires. Des agences. T'en connais? Si j'en connais, hein, c'est comme ça que j'ai reçu 5 000 francs. Mais tu m'as dit que c'était un type. Ben, il m'a fait un type d'une agence. Il m'a dit comme ça, le gentleman, il y a un monsieur qui veut savoir ce que c'était qu'un nommé Félicien qu'on vient de coffrer. Alors mets-toi dans en chasse. T'auras encore autant d'argent quand tu pourras le renseigner. Thomas Lebouc avait sursauté. Attends, mais qu'est-ce que tu chantes? C'est pour t'occuper du nommé Félicien? Oui, oui, celui qui est en prison. Et je dois voir le monsieur lui-même. Celui qui t'a fait donner les 5 000 francs? Oui. Mais tu as un rendez-vous? Oui, avec son chauffeur qui me conduira en auto près de lui. Mais où as-tu rendez-vous? Place à la Concorde, devant la statue de Strasbourg. Mais quand? Dans 3 jours. Jeudi à 11 h de la matinée. Le chauffeur tiendra le journal à la main. Tu vois que je pourrais t'aider. Thomas Lebouc ne se comprimait la tête. Le monsieur aux 5 000 francs, n'était-ce pas la piste? Il demanda... « Mais où habite-t-il, ce monsieur ?» Le gentleman articula. « Pareil qu'il habite au Vésiné. » »« Oui, oui, il habite au Vésiné. » »« On t'a dit son nom, bien entendu ?»« Oui, les journaux en ont parlé à propos de l'affaire. C'est quelque chose comme Tavernier. » Il ne dit plus rien. De tout son effort, le bouc tâchait de réduire au silence le tumulte de son cerveau. Près de le bouc, la tête sur la poitrine, le gentleman sommeillait. Doucement, Thomas Lebouc glissa la main entre le veston et le gilet du gentleman et tâta les poches. Ce n'est que dans la poche intérieure du gilet qu'il sentit sous ses doigts le papier, un papier plus résistant des billets de banque. Il les attira. Aussitôt réveillé, le gentleman se replia sur lui-même. Lebouc ne se gêna plus et tandis que l'adversaire se cramponnait de ses deux mains à la main et qu'il voulait se dégager. Lebouc eut peur. Il secoua l'ennemi de toute son énergie et le traîna sur le sol. Soudain, l'autre, épuisé, lâcha prise. Moins ivre, il se rendait compte qu'il avait fait des confidences et sans savoir lesquelles, il était furieux. Le bouc jeta un coup d'œil autour de lui, personne. Il poussa le gentleman qui tomba dans le vide et il resta quelques instants, hagard, effrayé. Pourquoi avait-il agi ainsi? Était-ce pour voler le gentleman? Ou pour l'empêcher d'aller au rendez-vous fixé par le monsieur des 5 000 francs? Au-dessous, cependant, il le vit. Il le vit qui se débattait, qui s'enfonçait, revenait à la surface et finalement disparaissait. Au fond de l'eau, le gentleman nagea durant une minute et, certain de n'être plus épié par le bouc, il émergea et suivit le quai avant le pont de Grenelle. Son chauffeur l'attendait. Il monta dans son auto, changea de vêtements et fila vers le Vésiné. À 3 h du matin, Raoul était couché dans son lit du clair-logis.
Au fur et à mesure de l'enquête, Raoul apprend par Faustina, une Corse dont le fiancé a été tué la nuit de l'agression, que Félicien Charles pourrait bien être son fils, qui se trouve tout d'abord accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, puis opposé à son père sous l'influence d'anciens complices de la comtesse de Cagliostro. Le plan posthume de la Cagliostro, morte en 1918, était de faire du fils un voleur et de l'opposer à son père. Arsène Lupin est-il battu cette fois? Voici un quatrième extrait. Félicien serait donc l'enfant de Raoul élevé en criminel par la comtesse qui serait morte. Philippe.
Parle, Faustine, parle, dit-il d'une voix qui s'altérait. Elle vit tout près des siens, les yeux implacables de Raoul, elle eut peur. Mais laissez-moi, murmura-t-elle vaincue. Tu parleras?
Oui.
Maintenant, sans détour et sans réserve?
Oui.
Jure-le sur la tête de Simon Lorient.
Je le jure.
Thomas Lebouc prétend que Félicien est mon fils. Je ne connais pas Thomas Lebouc. Mais par Simon Lorient, tu connaissais son père, le vieux Barthélemy. Oui, il avait confiance en toi, oui. Que savais-tu de sa vie secrète? Rien. Et de la vie de Simon Lorient, de ses projets, de... Rien. Pas même leur machination contre moi? Non. Cependant, ils t'ont dit que Félicien était mon fils. Ils me l'ont dit, oui. Sans te donner des preuves. Je n'en aurais pas demandé. Que m'importer? Mais il m'importe à moi, fit Raoul, le visage contracté. Il faut que je sache s'il est mon fils ou s'il ne l'est pas. Est-ce une comédie qu'il jouait, en profitant de certains renseignements recueillis par hasard? Ou bien une vérité qu'ils essayèrent de mettre à profit en me menaçant de parler? Je ne peux pas vivre dans une telle incertitude, je ne peux pas. Elle parut s'étonner de l'émotion contenue que son accent trahissait. Cependant, elle dit encore et avec plus de force, « Mais je ne sais rien. » Peut-être, mais tu peux savoir, ou du moins me mettre à même de savoir. Mais comment? Thomas Lebouc affirme que Barthélemy t'a remis une petite pochette qui contenait des documents à ce propos. Oui, mais... Quoi, mais un jour, après les avoir relus, ces documents, il les a brûlés. Devant moi, sans en dire la raison. Il n'en a gardé qu'un seul, qu'il a glissé dans une enveloppe. Il a cacheté cette enveloppe et me l'a confié. Avec des instructions? Il m'a dit simplement, mettez ça de côté, on verra plus tard. Vous pouvez me le communiquer? Elle hésita. Hein. Pourquoi pas? Insista-t-il. Barthélemy est mort, Simon Lorient également, et c'est Thomas Lebouc qui m'a tout révélé. Elle réfléchit longtemps, le front un peu plissé, le regard distrait, puis elle chercha dans un tiroir de la commode un buvard où il y avait des lettres. Parmi ces lettres, elle trouva une enveloppe qu'elle décacheta, et d'où elle sortit un bout de papier plié en deux. En lisant, elle eut un sursaut. Néanmoins, elle passa le papier à Raoul sans mot dire. C'était une phrase, deux phrases plutôt... L'écriture était haute, lourde, empâtée. Également appuyé partout. Comment Raoul n'eut-il pas reconnu l'écriture de celle qu'il appelait jadis la créature infernale? Et comment ne pas reconnaître la manière brutale et méprisante dont elle avait toujours donné ses ordres les plus monstrueux? Trois fois, il relut les lignes effroyables. Faire de l'enfant un voleur, un criminel si possible, plus tard l'opposer à son père. La pâleur de Raoul frappa la jeune femme, une pâleur... qui provenait d'une souffrance inexprimable, de terreur ressuscitée, de toute l'angoisse d'un passé qui mêlait au présent la menace la plus tragique. « La haine, la vengeance !» scanda-t-il. « Tu comprends ça, toi, Faustine ? Mais cette femme-là, c'était autre chose que de la haine et de la vengeance. C'était le besoin, la volupté du mal. Quel monstre d'orgueil et de méchanceté ! Aujourd'hui encore, tu vois son œuvre ? Cet enfant qu'on élève contre moi pour en faire un criminel. Rien ne m'effraie dans la vie, mais je ne puis penser à elle sans épouvante. Et l'idée qu'il va falloir recommencer l'horrible lutte. Faustine se rapprocha de lui et hésita, puis déclara sourdement. Le passé ne recommencera pas, la comtesse de Cagliostro est morte. Raoul sauta vers elle et tout en pantelant. Mais qu'est-ce que tu dis? Elle est morte, mais comment le sais-tu? Elle est morte. Il ne suffit pas de l'affirmer, tu l'as vue, tu l'as connue. Oui. Et puis il s'exclama, « Tu l'as connue? Est-ce possible? Comme c'est étrange !» Deux ou trois fois, je me suis demandé si tu n'étais pas son émissaire, si tu ne continuais pas son œuvre de destruction contre moi. Elle secoua la tête. Hein. « Non, elle ne m'a jamais rien dit. Mais parle !» J'étais tout enfant. Il y a 15 ans, des gens l'ont conduite à mon village de Corse. Elle était à moitié folle, une folie douce, tranquille. Elle ne connaissait jamais, elle pleurait beaucoup. Des larmes qu'elle n'essuyait pas. Elle était encore belle, mais une maladie l'a rongée très vite, et un jour, il y a 6 ans, j'ai fait la veillée près de son lit de mort. « Mais tu es sûr ? » dit-il, bouleversé d'émotion. « Qui t'a révélé son nom ? » On le savait dans le village. « En outre ? » ?»« Oui, je l'ai su par le vieux Barthélemy et par Simon Lorient qui l'a cherché partout, et qui l'ont trouvé là, un peu avant sa mort. C'est alors durant ces quelques semaines que nous nous sommes aimés, Simon et moi, et il m'a amené à Paris. « Mais pourquoi la cherchait-il ? » Après un moment d'indécision, je vous ai déjà dit que je ne savais rien de la vie secrète de Simon et de son père. Aujourd'hui, je comprends qu'ils ont accompli des choses mauvaises, mais il me les a cachées. Cependant, peu à peu, par bribes, j'ai deviné l'histoire de Félicien. Pas tout, car eux-mêmes ne savaient pas tout.
Comme toujours, l'intrigue est bien ficelée. Et il faut vraiment attendre les dernières pages pour en avoir le dénouement. Même si la comtesse de Cagliostro n'apparaît pas physiquement dans ce roman, son fantôme est présent pour accomplir sa vengeance. Le personnage de Lupin, bien que décrit toujours jeune, est moins fanfaron qu'à son habitude avec les autorités Et par contre, ces déductions sont toujours en avance sur celles du juge et du commissaire. Il a l'air lassé de sa vie aventureuse et veut prendre sa retraite. Les dents du tigre laissaient penser que c'était chose faite, mais on le retrouve en plein Paris, prêt à cambrioler un individu. Et à la fin du roman, on peut penser que cette fois, c'est la bonne. Ou pas. Est-ce que les héros se reposent ? Merci Philippe. Nous poursuivons notre périple des aventures d'Arsène Lupin dans notre prochaine émission avec Le bouchon de cristal. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Que c'est facile de rouler les gens. Un peu d'audace, des idées claires, de la logique, la volonté absolue de filer comme une flèche vers le but et les obstacles s'abolissent d'eux-mêmes. C'est de Arsène Lupin, bien sûr, dans la Comtesse Cagliostro de Maurice Leblanc. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5, la radio du Grand Toulouse. Bonne journée à tous et à mercredi prochain.
Au revoir.